Voix de femme.
Journée où la voix des femmes s'élève, journée de mobilisation et d'hommage aux femmes du monde entier. Journée également où des femmes leaders championnes du changement dévoilent leur plan d'action. Journée des bilans car l'on célèbre son temps d'accès de la femme au travail avec tous les défis que ceci comporte. De quelles réussites peut-on parler? De quelles injustices ou de quelle répartition des tâches doit-on également parler? Et quel est le rôle de l'homme dans tout cela? Autant de questions qu'a posé Christina Silvero à notre invitée de la rédaction, Jane Hodges, directrice du service égalité hommes-femmes au Bureau international du travail.
Jane Hodges, bonjour.
Bonjour. Je salue toutes les femmes aujourd'hui, le 8 mars, pour fêter cette journée importante.
Salutations aussi. Justement, on est aujourd'hui la journée internationale pour la femme. Voilà 100 ans de mobilisation pour la femme. Pourquoi mettre la femme au cœur de l'action de l'OIT aujourd'hui?
L'OIT donne une importance significative à la position de la femme dans le marché du travail parce qu'effectivement, elle y est et elle va y rester. Globalement, plus que la moitié des femmes sont dans le marché du travail et dans certaines parties du monde, c'est moins. Mais la position de la femme a énormément changé en 100 ans et c'est important que leur conditions de travail soient absolument décentes, reconnues et payées à leur juste valeur.
Alors que prône l'OIT justement en vue d'une meilleure égalité et de ces meilleures conditions de travail pour la femme?
À l'OIT, nous avons ce qu'on appelle le travail décent, qui consiste à 4 grands piliers. L'emploi, c'est-à-dire retenir des postes ou avoir une capacité pour un entrepreneuriat féminin, mais aussi pour la protection sociale, qui couvre des choses comme la protection de la maternité, mais aussi les paiements pour le chômage. Puis, le troisième pilier, c'est le dialogue social, où on attend que les femmes soient représentées dans tous les ministères, les parlements, mais aussi, bien sûr, dans les organisations de travailleurs et les employeurs, dans toute instance où les décisions qui affectent des femmes sont prises. Et quatrième pilier, c'est les droits au travail, les droits fondamentaux, c'est-à-dire les droits de s'associer, le droit de parler, l'abolition du travail enfantin, surtout le travail des petites filles. Donc, il y a ces 4 axes sur lesquels le BIT travaille.
Alors, comment est-ce que les politiques du BIT tentent de tenir compte du double emploi de la femme, c'est-à-dire de la femme travailleuse et de la femme mère de famille?
Premièrement, nous avons un cadre législatif normatif, c'est-à-dire la Convention 156, qui date de 1981, qui prône l'égalité entre femmes et hommes qui travaillent pour avoir une famille et avoir un emploi, c'est-à-dire de concilier les responsabilités de famille, pas seulement les enfants, mais les aînés dans la famille aussi, et les responsabilités de travail. Deuxièmement, nous avons un énorme choix d'outils aptes pour le lieu de travail, des bonnes pratiques pour que des entreprises, que ce soit des micro-entreprises ou même des multinationales, pour qu'ils comprennent comment faire pour que les femmes et les hommes puissent réconcilier ces deux tâches. Par exemple, la flexibilité dans l'horaire, des crèches disponibles même pour de tout petits enfants. Il y a aussi une énorme charge de faire savoir que si on ne s'occupe pas des femmes et des hommes qui ont des responsabilités de famille et de travail, l'économie perd.
Est-ce que ces mesures et ces exemples sont rentables?
Dans le court terme, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'effectivement ça coûte. Mais ça ne coûte pas énormément. Moi-même, j'ai servi avec l'OIT en Afrique. Et on a vu en Afrique australe énormément, par exemple, des compagnies minières qui voulaient avoir des femmes entrées, qui voulaient casser un peu ces ségrégations d'occupation. Et en se mettant ensemble pour organiser, par exemple, des minibus, des navettes qui pouvaient faire venir des femmes de leur maison ou d'une certaine partie de la ville, ou aller chercher les enfants pour aider les femmes de rester au boulot, ça marchait énormément et c'était pas tellement cher. Une fois le coût immédiat réparti entre plusieurs entreprises, dans le long terme, le coût est moindre. Et les épargnes faites par ces petites mesures ponctuelles, c'est énorme comparé à de ne pas avoir des femmes au travail.
Alors justement, est-ce qu'il est nécessaire que les hommes s'inscrivent dans ces politiques aussi?
Absolument, Christine. Non, c'est fondamental et toutes les organisations des Nations Unies sont avec l'OIT là-dessus parce qu'il ne s'agit pas seulement d'organiser mieux la vie des responsabilités doubles des femmes, d'accommoder un peu cette inégalité. Non, l'idée, c'est d'abolir l'inégalité et de faire en sorte que les deux sexes puissent avoir une carrière et une famille. Le rôle des hommes est primordial dans ça, c'est-à-dire ils doivent comprendre que ces traditions qui sont assez fréquentes, hein, que ce soit dans le nord ou dans le sud, mais que les mythes en ce qui concerne ce que fait la femme, ah, c'est la femme qui s'occupe de la petite enfance, la femme qui s'occupe des personnes âgées, les grands-mères, pour que ces mythes passent. Parce que nous sommes effectivement en 2011, le monde a changé, et même dans des pays qui font face courageusement à une pauvreté terrible, les attitudes et les mentalités sont en train de changer.
Donc vous dites qu'en fait, l'égalité de la femme ou la réorganisation des tâches de famille ne s'effectue pas que dans les sociétés dites développées ?
Absolument, absolument. Et je crois que ce qu'on a vu avec l'épidémie de VIH a montré que si on laisse, avec ces perceptions que c'est les femmes qui doivent s'en occuper, occuper des personnes vivant avec le virus, c'est pas seulement injuste point de vue de cadre normatif, mais c'est une faiblesse incroyable.
Quel genre de faiblesse? Quand vous dites faiblesse, ça veut dire quoi?
Ça renforce cette perception de la femme comme la seule qui est capable de s'en occuper des malades, des faibles, et ça rend les femmes plus faibles parce qu'elles n'ont aucune chance de casser un peu cette vision d'elles.
Alors aujourd'hui, on fait donc le bilan de ces 100 ans de mobilisation pour la femme. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, tout d'abord, 100 ans depuis quoi? Depuis qu'on a essayé de mettre la femme, de l'intégrer dans la sphère publique et politique. Et quel est le bilan justement de cette mobilisation?
Pour nous, dans le monde du travail, c'est 100 ans de demande d'être pris comme égale dans le monde du travail, d'avoir un salaire égal pour un travail de valeur égale, qui était déjà une grande lutte en 1911, il y a 100 ans. Et c'est aussi une grande cri pour avoir une reconnaissance au niveau des comptes des États que le travail qu'ils font les femmes valent quelque chose. Alors, point de vue politique, je viens de voir quelques statistiques données par nos organisations sœurs sur le nombre de femmes dans les parlements dans le monde. En moyenne, c'est 19%, et il y a très, très peu de pays où il y a plus de 30% de femmes élues au niveau fédéral ou au niveau central, qui est scandaleux après 100 ans. Et pourtant, je viens d'un pays où le vote des femmes était assez accepté il y a longtemps, même avant 1911. Et le peu de progrès qu'on fait politiquement ne peut que aider, mais il y a beaucoup qui reste à faire.
Jane Hodges, je vous remercie de cet entretien.
Merci Christina. Encore une fois, bonne fête.
Oui, bonne fête à vous.
De la femme.